BriefMe, édition du 10 avril 2024.
Dans BriefMe aujourd'hui, le projet de loi sur la fin de vie, une infographie sur les importations d'armes d'Israël et un ours cuisinier.
On rembobine.
Grève. La CGT a déposé aujourd'hui des préavis de grève, courant du 15 avril au 15 septembre, dans les trois branches de la fonction publique, État, territoriale et hospitalière. Le syndicat majoritaire dans la fonction publique demande une revalorisation salariale et des compensations financières pour les agents mobilisés pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été.
Déficit public. Le ministère de l'Économie a annoncé aujourd'hui qu'il anticipait pour 2024 un déficit public atteignant 5,1% du PIB, la production totale de biens et services, au lieu des 4,4% prévus jusqu'ici. Il a prévenu que 10 milliards d'euros supplémentaires devraient être économisés cette année, en plus des 10 milliards d'économies actées en février.
Emploi. Les négociations entre syndicats et patronat sur l'emploi des seniors ont échoué la nuit dernière. Ces discussions, qui se sont étalées sur plus de 3 mois, devaient aboutir à un accord pour faciliter le maintien sur le marché du travail des plus de 60 ans. Le gouvernement s'est fixé comme objectif un taux d'emploi des 60 à 64 ans de 65% d'ici 2030. Il était de 36,2% en 2022, selon l'Institut national de statistique INSEE.
Éolienne. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré hier lancer une enquête sur les fournisseurs chinois d'éoliennes en Europe, lors d'un discours à l'université de Princeton aux États-Unis. Nous craignons que certains producteurs éoliens puissent bénéficier de subventions étrangères injustes. Un marché énergétique équitable est essentiel pour notre compétitivité, a-t-elle écrit sur X hier soir. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'est inquiété hier soir de la tendance protectionniste croissante de l'Union européenne.
Immigration. Les députés européens ont adopté aujourd'hui le pacte sur la migration et l'asile, une vaste réforme de la politique migratoire européenne. Le texte durcit les contrôles à l'entrée dans un pays de l'Union européenne et renforce la solidarité entre les États membres pour l'accueil des demandeurs d'asile. Le texte, qui doit s'appliquer en 2026, nécessite encore pour être adopté un vote par le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné.
On fait le point.
Le gouvernement présente son projet de loi sur la fin de vie.
Le gouvernement a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres un projet de loi sur la fin de vie. Il prévoit de rendre possible l'accès à une aide à mourir sous 5 conditions, énoncées ce matin par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, être majeur, résider en France ou être de nationalité française, être atteint d'une affection grave et incurable, souffrir de douleurs insupportables et réfractaires au traitement et enfin exprimer sa demande de manière libre et éclairée. Ces 3 dernières conditions feront l'objet d'un examen par un médecin qui prendra l'avis de 2 autres professionnels de santé, a-t-elle précisé. Lorsque nous abordons la notion de fin de vie, nous commençons évidemment par un plan important en matière de soins palliatifs, a déclaré Catherine Vautrin. Un malade sur 2 n'a pas accès aujourd'hui à ces soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance, a-t-elle précisé. Ce chiffre avait été donné dans un rapport publié en juillet par la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique. Elle a rappelé, comme elle l'avait annoncé samedi au journal Le Monde, que le gouvernement souhaitait consacrer 1,1 milliard d'euros supplémentaires aux soins palliatifs en 10 ans, soit une augmentation des crédits de 66%. La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, une société savante, s'est inquiétée aujourd'hui des conséquences possibles du projet de loi. Plus de 80% des soignants concernés refuseraient de prescrire, fournir, préparer et ou administrer le produit létal, écrit-elle à l'issue d'une étude réalisée auprès d'environ 2300 membres de la communauté des soins palliatifs. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité a salué aujourd'hui un premier pas en direction d'un nouveau droit. Le projet de loi sur la fin de vie sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai, avait annoncé en mars le Premier ministre, Gabriel Attal. Les parlementaires vont faire leur travail et il faut qu'ils puissent le faire sereinement, calmement, respectueusement, avait déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le 6 mars sur France Inter. Le temps est une condition d'un débat serein, avait-elle expliqué avant d'ajouter qu'elle espérait qu'une législation sur l'aide à mourir puisse être adoptée avant 2027.
Tout s'explique.
Le Parlement valide la fusion de l'ASN et de l'IRSN.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté définitivement hier soir le projet de loi de réforme de la sûreté nucléaire.
Le texte, qui prévoit la fusion de l'ASN et de l'IRSN, avait fait l'objet de fortes critiques.
Quel est l'objectif du projet de loi adopté ?
Le projet de loi de réforme de la sûreté nucléaire a été adopté définitivement hier soir par les députés, par 340 voix contre 173, puis par les sénateurs, par 233 voix contre 109. Ce texte prévoit de réunir au 1er janvier l'Autorité de sûreté nucléaire, ASN, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, deux organismes publics, afin d'améliorer l'efficience des procédures en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et l'attractivité des métiers du nucléaire, selon le discours prononcé en Conseil des ministres fin décembre par Agnès Pannier-Runacher, à l'époque ministre de la Transition énergétique. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a estimé hier que cette loi allait permettre de répondre dans les meilleures conditions aux défis de la relance de la filière nucléaire, alors que la France prévoit de construire de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035.
Quelle est la différence entre l'ASN et l'IRSN ?
Les deux organismes sont spécialisés dans la sûreté nucléaire, mais n'ont pas la même fonction. L'ASN est une organisation indépendante chargée de contrôler au nom de l'État les activités nucléaires civiles en France, ce qui comprend les centrales nucléaires d'EDF, le transport de matières radioactives ainsi que les installations industrielles, médicales, centres de radiothérapie, etc. Guet de recherche, selon son site. En 2022, elle employait environ 500 agents. L'IRSN est un établissement public qui rassemble des experts du secteur. Il effectue des recherches et des expertises sur les risques nucléaires et radiologiques. Il rend également des avis à différents services de l'État. Ces avis techniques sont aussi utilisés par l'ASN pour autoriser, ou non, des établissements à fonctionner. L'IRSN publie ses avis en ligne en amont de la décision de l'ASN, elle aussi publique. L'IRSN comptait un peu plus de 1700 collaborateurs en 2022.
Quelles critiques sont adressées à ce projet de fusion ?
À l'Assemblée nationale hier, le député communiste Sébastien Jumel, opposé au texte, a cité la Cour des comptes qui déclarait en 2014 que la fusion constituerait une réponse inappropriée par les multiples difficultés juridiques, sociales, budgétaires et matérielles qu'elle soulèverait. Dans un texte mis en ligne lundi, Jacques Repussard, ancien directeur de l'IRSN, estime que la fusion des deux organismes impactera négativement la confiance dans la filière nucléaire, car le partage des connaissances avec la société civile exige une prise de distance avec les actions du contrôle régalien. À l'Assemblée nationale hier, le député rapporteur du texte, Jean-Luc Fugy, a déclaré qu'un compromis avait été trouvé afin de renforcer le principe de la distinction entre l'expertise et la décision. Le texte voté prévoit que les expertises soient diffusées publiquement de manière concomitante aux décisions, et non en amont, sauf exception. Des salariés de l'IRSN se sont dit dévastés mardi soir sur X de la décision de faire disparaître l'IRSN.
Ça se chiffre.
Les importations d'armes d'Israël.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé vendredi l'arrêt de toute vente d'armes à Israël, sans pouvoir l'imposer. Israël est le 15e pays importateur d'armes majeures, selon un classement établi pour la période 2019-2023 par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, un institut d'études stratégiques. Le CIPRI considère comme armes majeures des équipements comme des avions, des navires, des missiles ou encore des satellites de surveillance. Les importations israéliennes représentent 2,1% des importations mondiales d'armes majeures entre 2019 et 2023, 69% de ces importations venaient des États-Unis. Les armes importées par Israël, en particulier les avions de combat reçus des États-Unis depuis plusieurs décennies, ont joué un rôle majeur dans les actions militaires d'Israël contre les groupes islamistes Hamas et Hezbollah, écrit le CIPRI. Entre 2019 et 2023, d'autres pays se sont encore davantage approvisionnés auprès des États-Unis, comme les Pays-Bas et le Japon.
Ça alors.
La préfecture de Paris cherche à loger ses fonctionnaires pour les JO.
La préfecture de police de Paris a lancé hier un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un logement pour ses fonctionnaires mobilisés pendant les JO à Paris cet été. La préfecture de police se porte garante si vous louez votre bien à un agent de la préfecture de police ou du ministère de l'Intérieur, assurant ainsi que le loyer sera payé. En échange, un effort sur le montant du loyer est demandé au propriétaire, précise la préfecture de police sur son site. près de 9000 biens ont été mis en location de courte durée pour la période des JO, notait un baromètre publié en décembre par Lykéon Immo, une plateforme d'estimation immobilière. Le prix moyen à la nuitée était alors de 1050 euros pour des séjours de courte durée, toujours selon le baromètre.
Ça vaut un clic.
Quand votre ours en peluche devient cuistot.
Kuma est un ourson japonais, passionné de cuisine. Dans une délicieuse et gourmande animation en stop motion, l'ours en peluche prépare des plats typiques japonais comme un roulé aux œufs, un curry de bœuf et soja ou encore des crêpes japonaises. Sucré, salé, il sait tout faire. À vos fourneaux.
Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous prendre le chou sur le menu du dîner.
Cette édition a été réalisée par Nicolas Filiot, Laurent Mauriac, Séverine Mermillot et Marie-Liévine Michalik.